L'œuf et la poule, Olivier Horry. L'œuf et la poule, la conversation philosophique. Aujourd'hui, sur la philosophie elle-même. Bonjour Odile. Alors, la philosophie
Eh bien, la philosophie, si vous vouliez bien nous parler de Socrate maintenant.
Ah, Socrate, c'est un peu la figure tutélaire de la philosophie. Il a une particularité, c'est qu'il n'a rien écrit. Mais par contre, il y a trois gros témoignages sur sa vie. Celui de Platon, magnifique. Toute l'œuvre de Platon est mise pratiquement dans la bouche de Socrate. Xénophon également, qui a écrit une apologie de Socrate dans les Mémorables. Alors c'est un témoin moins important, moins emblématique peut-être. Et puis enfin, surtout Aristophane, qui est un peu le Molière d'Athènes et qui nous fait de Socrate un portrait très peu flatteur de gourou un petit peu. Alors c'est pourtant cette figure de Socrate qui va servir à l'essentiel de la philosophie occidentale en fait.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect-là de sa vie ?
Oui, on a une dans l'apologie de Socrate, de Platon, on a Socrate se défendant au procès qui lui a été intenté. On l'accuse de corrompre la jeunesse, on l'accuse de ne pas croire au dieu de la cité, de donner du soleil et de la lune des représentations physiques qui ne correspondent pas exactement à celles de la mythologie qui est en cours à l'époque. Et quand on lui demande de s'expliquer sur ce qu'il fait réellement, il explique qu'il se contente, suite à la parole d'un oracle pythien d'Apollon de Delphes, suite à un oracle qui le prétendait l'homme le plus sage d'Athènes, il a décidé de se livrer une enquête sur cette question. Voilà.
Et le résultat de son enquête ?
Eh bien, cette enquête, il l'amène auprès des gens qui passent pour savants dans Athènes. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes qui sont passées en revue par ce Socrate en mode inspecteur.
Par exemple,
les politiques. Alors, ça n'a pas beaucoup changé. Les politiques prétendent effectivement savoir quoi ? Ben, ils prétendent savoir gouverner, ils prétendent savoir déterminer ce qui est dans l'intérêt de tous et de chacun. Socrate donc les interroge en public. Hein. Ce sont des conversations comme celles que nous avons là et qui sont publiques. Et durant ces conversations, il met par l'analyse philosophique des discours des politiques, il met en évidence le fait qu'ils ne paraissent pas si informé et si connaisseur de ce qui vaut véritablement pour la cité, en fait.
Mais à cette époque-là, quel pouvoir ils avaient vraiment, ces politiques ? Est-ce que c'était eux qui tenaient le pouvoir ou est-ce qu'ils étaient là pour faire des propositions ?
Non, ils avaient vraiment le pouvoir. À Athènes, se sont succédés de nombreuses formes de gouvernance, comme nous dirions aujourd'hui. Socrate en a principalement connu deux. Celle connue sous le nom de tyrannie des 30, un pouvoir autoritaire, et puis la démocratie donc dont on dit qu'elle est née quand même à Athènes. C'est cette démocratie qui est au pouvoir finalement quand Socrate est conduit à son procès pour être ensuite, donc on le sait, condamné à mort et exécuté. Non, ce sont des gens qui ont réellement le pouvoir, soit par délégation du peuple, soit plus directement par autocratisme. Et ce sont ces gens-là qui ont authentiquement le pouvoir que Socrate remet en cause, lui.
Et est-ce qu'il y avait des instances qui pouvaient évaluer les qualités des politiques ou est-ce que c'était à la population même d'évaluer les résultats ou les...
C'était à la population, surtout en démocratie, c'est la population, une partie de la population, parce que la citoyenneté athénienne, elle est pas, les femmes ne sont pas citoyennes, on est citoyen à partir d'un certain âge, c'est pas si simple que ça, mais le citoyen athénien, les citoyens athéniens ont un véritable pouvoir de régulation, mais il y a une classe politique, un peu mutatis mutandis, un petit peu comme pour nous, et il y a aussi puisque tous dans une démocratie se gèrent à partir de la parole, il y a aussi des gens qui se sont spécialisés dans la parole, dans la rhétorique, et qui sont l'équivalent de nos communicants, de nos chefs de parti, enfin, etc., et qui sont tout à fait capables, par leur discours, d'avoir une influence puissante sur les citoyens.
Et c'est tous ces gens-là, alors, que Socrate est allé interroger. Comment ils choisissaient ces...
Ça, je sais pas. Il faut voir qu'on est dans une situation démographique qui est pas du tout la même que la nôtre. Hein. Il y a une vie collective réelle. Des gens se rencontrent, se connaissent, se croisent. Ça va être à l'agora, donc la place publique. Ça va être dans d'autres endroits, dans des demeures privées, aussi bien que ces rencontres vont se faire à partir du moment où sont organisés des banquets, etc. Et c'est dans ces conditions-là que Socrate va effectivement avoir sous la main à peu près tout ce qu'il veut dans la population, y compris d'ailleurs un esclave, un médecin, etc. Il a à peu près tous les interlocuteurs qu'il désire.
Et c'est en public, donc, qu'il intervenait,
Oui, c'est vraiment des conversations publiques, comme nous avons une conversation avec un public un petit peu particulier, parce que nous ne le voyons pas, mais c'est public, et par conséquent, effectivement, ça peut déclencher. On peut se demander si Socrate, de son vivant, n'est pas déjà devenu une espèce de phénomène culturel à lui tout seul, avec évidemment des supporters, passionnés, et puis des opposants non pas tellement moins passionnés, hein, pour que ça en arrive là où ça en arrive pour lui.
Est-ce qu'on sait si à un moment il s'est rendu compte que ça allait mal se terminer, son aventure, ou il a continué malgré tout, ou il savait pas, ou nous on sait pas?
Platon, toujours dans l'Apologie de Socrate, fait dire à Socrate que Socrate s'en rend compte. Il se rend compte qu'il suscite des oppositions violentes dans beaucoup de parties de la société, et que ces oppositions, qui ont des raisons politiques, spirituelles, morales, hein, si on l'accuse de pervertir la jeunesse, on voit toute la dimension morale que peuvent porter ces opposants. Il sent qu'effectivement, quelque chose est en train de se passer. Au cours de son procès, où il a la possibilité de se défendre, il est un peu crâneur, il est un petit peu prétentieux, et se réclame d'une mission qui est presque surnaturelle. Et donc il ne fait quelque part que...
Aggraver
son cas, oui.
Il a été le seul donc, qui a entrepris ce travail-là, ou alors il y avait quelque chose dans l'air du temps?
Oui, c'est une vraie question. Incontestablement, Socrate fait figure un peu d'exception. Et beaucoup en font le véritable inaugurateur d'une nouvelle façon de philosopher, et qui consiste... cette investigation philosophique qui consiste justement à dialoguer pour mettre l'interlocuteur en défaut de connaissance. Hein. Et de ce point de vue-là, il est suffisamment exceptionnel pour être effectivement utilisé par quelqu'un comme Aristophane pour en faire un héros d'une pièce comique. Et ensuite, il va y avoir de même que un certain nombre de savants de la Grèce, on va dans la tradition les nommer les pré-socratiques, on va parler de socratiques pour toute une série d'écoles d'ailleurs très très différentes qui vont se réclamer de cette inauguration dont Socrate est quelque part l'auteur, et dont nous sommes un petit peu les continuateurs d'une certaine manière.
Oui, c'était le début d'une forme de ce qui nous a donné la philosophie.
Oui, d'une certaine manière, oui. Aristote dit qu'avec Socrate, les savants prennent en main, prennent en charge la question morale, la question du bien et du mal, la question de la décision sur ce que nous devons faire dans la vie et de nos vies. Ce serait Socrate qui aurait inauguré ce nouvel objet pour la pensée, quoi, d'une certaine manière.
Est-ce qu'il y a aussi le doute? Parce que du coup, il met en doute. À partir du moment où il questionne, il met en doute. Donc est-ce qu'il a mis ça aussi, initié ça aussi?
Si on regarde, c'est intéressant, si on regarde l'attitude de Socrate telle qu'elle transparaît chez Xénophon ou chez Platon, par exemple, et à plus forte raison chez Aristophane, visiblement, Socrate est quelqu'un qui doute assez peu de lui-même.
Ah, de lui-même, oui.
Ah oui, oui, très peu. Apparemment, il est assez certain. C'est un peu ce qu'on a appelé la docte ignorance. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, que les autres qui l'interrogent ne savent pas les buts ultimes, les fins de l'existence, etc. Ça, il en est sûr, et ça, il ne le remet pas tellement en doute. Alors, pourquoi je profite de ta question pour souligner ça, pour souligner que le fait que Socrate, ce n'est pas un sceptique. Ce n'est pas quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de vérité atteignable, qu'on est tous dans la même galère, etc. Non. Lui, il est détenteur d'une docte ignorance. Il sait qu'il ne sait pas. Et c'est en ça qu'il sait plus que les autres. Hein.
Oui, donc c'est le doute, moi, je l'attribue, initier le doute chez les autres,
oui,
plutôt.
Plutôt.
Il s'est plutôt occupé de ça.
Oui, il s'est plutôt occupé de ça, nettement.
Oui, voilà. Oui, il l'a payé cher, du coup.
Oui. Parce que, ouais, il l'a payé cher parce qu'effectivement, on voit bien que son job, c'était un petit peu de sortir ses interlocuteurs de leur zone de confort. Hein. On a déjà parlé, nos représentations, elles répondent, hein, à des craintes ou à des désirs que nous avons. Et quelqu'un qui vient dire, mais oui, mais enfin, tes représentations ne sont que tes représentations. Il faudrait peut-être voir à les révolutionner, à les déconstruire, comme on dirait aujourd'hui. Évidemment, il met ses interlocuteurs dans un grand inconfort.
Oui, mais qui pouvait lui répondre que lui-même n'était que lui-même, et est-ce qu'il l'a ressenti légitime, ou est-ce que lui s'est autoproclamé légitime?
Bon, indéniablement, il s'est autoproclamé légitime, bien
voilà.
sûr. Mais cette légitimité, il la confirme par les aveux d'ignorance que ses interlocuteurs sont obligés de faire, finalement, d'une certaine manière. Et c'est peut-être... Il y a une auto-légitimation par une espèce de repli sur une commune humanité qui se rend compte qu'effectivement, elle ne sait rien.
L'œuf et la poule, La philosophie racontée par Olivier Horry.
Pat Metheny, What's It All About, c'est l'album 2011 pour An I Lover, un thème que naturellement Pat Metheny a été emprunté à John Lennon et à Paul McCartney. C'est toujours l'œuf et la poule. La philosophie elle-même, c'est à ça que s'intéresse l'œuf et la poule. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés donc à ce portrait des interlocuteurs de Socrate pris, comme me le disait Odile, hors antenne, la main dans le sac. Quel sac ? Ben, leur ignorance, finalement, ce qui suppose peut-être une certaine conception de la vérité, je ne sais pas.
Ben, ou en tout cas de la leur, mais c'est assez logique. Leur comportement, il est logique. Ils se sont fait prendre en flagrant délit, d'ignorance ou de négligence, par quelqu'un qui n'avait pas de titre particulier. Je ne sais pas si c'était important à l'époque, mais donc c'est comme s'ils s'étaient fait prendre dans la rue, comme nous maintenant. Ça pouvait difficilement passer, à mon avis.
Le portrait très exact que d'ailleurs Socrate fait plus ou moins de lui-même, ou que ses contemporains ont fait, il est dans la rue avec son bâton, c'est Jacques Brunjvic dans l'Encyclopédie Universaliste qui a cette image, c'est Socrate qui avance dans Athènes avec son bâton, qui tombe sur quelqu'un qui s'est donné à lui-même quelques droits à parler et à agir, et que Socrate interrompt dans son mouvement, en quelque sorte, en lui disant « Mais attends, arrête-toi, où vas-tu ? Que veux-tu faire ? De quelle vérité es-tu porteur ?» Effectivement, voilà, et que nous allons examiner entre nous.
Et oui, et que sais-tu ? Et s'il est obligé de convenir qu'ils ne savaient pas grand-chose, ou en tout cas que ça légitimait pas leurs actions, apparemment, Socrate, lui, s'est auto-légitimé aussi. Mais s'il n'était pas dans l'action publique, du coup, il ne se trouvait pas, dangereux.
Il ne se trouvait pas dangereux, je ne sais pas. Je pense qu'il était suffisamment conscient pour savoir quel danger il représentait pour beaucoup de monde dans la cité.
Ah oui, dans ce sens-là,
je pense. Ce qu'il oppose à ses interlocuteurs, je crois, c'est une certaine conception de la vérité de fait. C'est-à-dire que, alors que ses interlocuteurs sont dans l'interprétation, dans l'ambition, aussi tout bêtement dans l'enrichissement, la prise de pouvoir, etc., Socrate intervient souvent et les arrête souvent par une simple référence aux faits les plus simples. Alors évidemment, nous, on a peut-être un peu de mal à saisir. Le mot « fait », c'est pas tellement à la mode. Hein. On a toujours un peu l'impression qu'on a tous nécessairement un point de vue très particulier, discutable sur les faits. Bon, il n'en reste pas moins que pour quelqu'un comme Socrate qui part vraiment de réalité tout à fait ordinaire, les faits ont un sens, et qui est le sens que on demande à la limite d'avoir et de développer dans les écoles de journalisme, ou bien aussi bien dans les universités quand on étudie l'histoire. Donc ce sont des domaines où effectivement être capable d'isoler un fait tangible et difficilement discutable est une sorte de préalable à la discussion philosophique.
Oui, donc il les amenait à faire le constat de ce qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne savaient pas faire, et il les amenait directement dans une impasse.
C'est ça, une impasse, c'est-à-dire un moment où l'interlocuteur ne peut plus développer sa représentation, son point de vue, et bon, je disais, son ambition, son allant. Et puis, ou alors, plus simplement, et ça, c'est l'importance, l'importance qu'ont les vérités de fait pour le philosophe, vous avez l'importance qu'ont les vérités logiques, c'est-à-dire que il y a une sorte de nec plus ultra dans le fait d'amener son interlocuteur à une contradiction. Par exemple, on l'accuse de ne pas croire en des dieux, mais on l'accuse aussi d'avoir à sa disposition comme une espèce d'ange gardien, enfin un démon, un petit démon qui l'avertit simplement de ne pas dire ou de ne pas faire quelque chose à un moment donné de la journée, sans lui donner de raison. Alors Socrate dit, écoute, tu m'accuses de ne pas croire en des dieux, sommes d'accord, oui. Tu m'accuses d'avoir un démon et tu admettras avec moi que les démons sont des sortes d'intermédiaires entre les dieux et nous, oui. Alors comment peux-tu à la fois m'accuser de ne pas croire en des dieux et de faire référence à un démon qui est, de ton propre aveu également, un intermédiaire entre les dieux et les hommes? Tu te contredis. Et ça, normalement, ça, on parlait de légitimité du discours philosophique, ça légitime le discours philosophique par une espèce de contre-coup. Hein. Si tu te contredis, tu ne peux pas avoir raison, du point de vue simplement de la logique. C'était Pat Metheny en compagnie de Charlie Haden, The Moon Song, une chanson extraite de Beyond the Missouri Sky, entre parenthèses, Short Stories, un album de 1994. C'est toujours l'œuf et la poule, la conversation philosophique, un écho de l'atelier philo d'Aubenas avec mon interlocutrice, Odile Autray, une passagère régulière de cet atelier. Alors Odile, question démon.
Et est-ce que son petit démon, c'était pas un genre d'autocontrôle de soi, de contrôle de sa pensée, une sorte de conscience, quelque chose de cet ordre-là?
Oui, moi je crois que ça peut très bien être interprété comme ça, sur le mode Jiminy Cricket, Pinocchio, etc. Oui. Ou effectivement d'ange gardien. C'est vrai que notre culture a tendance à, je ne sais pas si c'est un bien joli mot, mais à psychologiser tous les phénomènes mentaux ou tous les phénomènes de l'esprit. Et c'est vrai que son petit démon qui l'empêche, par moment, et on pourrait très bien lui trouver des allures de surmoi en termes psychanalytiques ou d'autocensure ou je sais pas, c'est tout à fait possible et du reste c'est intéressant de voir que Socrate lui-même ne défend pas particulièrement une thèse ou une autre, l'idée qu'il serait ce démon une créature spirituelle ou simplement un aspect de sa psychologie. Socrate n'en parle pas. Dans le moment que je citais, il se contentait de prendre deux affirmations de son interlocuteur qui, prises en elles-mêmes et pour elles-mêmes, sont contradictoires. Lui-même ne dit pas grand-chose de plus de ce fameux démon. On pourrait, nous, ce démon, l'appeler pressentiment, intuition, enfin, que quelque chose doit s'arrêter dans ce qu'on est en train de faire.
Oui, par contre... qu'est-ce que ça aurait pu donner s'il n'avait pas été condamné? Est-ce qu'il était en train de mettre vraiment en danger le système politique du moment? Qu'ils ont eu assez peur pour ça? Est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont tué?
C'est pas exclu. Maintenant, effectivement, c'est très... Évidemment, c'est absolument impossible de... Hein, c'est le fameux principe avec des si, on met Paris dans une bouteille, quoi. C'est-à-dire, c'est mesurer le danger que présentait effectivement pour la démocratie athénienne un personnage comme Socrate. Je crois que personne ne peut le dire. En tout cas, ce qui paraît assuré d'une certaine manière, c'est qu'il a fait suffisamment peur pour qu'on préfère s'en débarrasser, quitte à se créer, ce qui s'est passé d'ailleurs, hein, une assez mauvaise réputation au regard de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, la démocratie athénienne restera pour la postérité la chose extraordinairement brillante qu'elle a été du point de vue politique, hein, un épisode dans l'histoire humaine assez étonnant quand même, qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on s'y interroge, et puis avec immédiatement le revers, c'est-à-dire cette démocratie magnifique, elle a aussi été l'assassin de Socrate.
Oui, mais ça, là, finalement, est-ce que la place de Socrate, elle n'a pas été prise plus tard ou différemment? On a toujours... Enfin, y a, les démocraties ont besoin d'une contestation, de toute façon. Donc, quelle que soit la forme qu'elle prend.
Il y a des successeurs de Socrate, incontestablement. Chaque génération compte un ou plusieurs intellectuels qui remettent vraiment en cause l'ensemble du système. Peut-être que aujourd'hui, là, on parle en France en 2024, peut-être que les voix contestataires, réellement contestataires du système dans son ensemble, sont peut-être un peu noyées dans toutes les voix qui s'expriment partout et par tous les moyens. Il y a peut-être une question, mais... Le fait que nous soyons en train d'en parler ici tendrait à montrer qu'il est quand même possible d'évoquer la contestation intellectuelle radicale. L'œuf et la poule, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Vincent Guigon qui réalise tout ça. Je remercie naturellement Odile Autré qui me posait toutes ces questions. Et puis je remercie Landy Unger, l'ange musical de L'œuf et la poule.
L'œuf et la poule, la philosophie racontée par Olivier Aurier.